podcast.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On Air, le podcast de l'Université Toulouse Jean Jaurès. Je m'appelle Sophie Cholet, je suis journaliste. Ensemble, nous allons tout comprendre sur un sujet de recherche, le temps d'un trajet en métro ou en bus. Le thème du jour étant ce 21e siècle, encore méconnu, voire même tabou. On va parler aujourd'hui de ces douleurs parfois terribles qui surgissent durant le cycle féminin. Bonjour Olivia Troupel.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en psychologie de l'enfant et de sa famille à l'Université Toulouse de Jean Jaurès, chercheuse au sein du laboratoire interdisciplinaire Solidarité Société Territoire, le LIST, co-directrice adjointe d'un groupement de recherche sur le bébé, la petite enfance en contexte, appelé le GIS-BECO. Et si vous êtes au micro de On Air aujourd'hui, eh bien c'est pour nous parler de vos travaux actuels sur les dysménorrhées sévères, c'est le terme médical pour parler des douleurs pendant les règles, travaux menés dans le cadre du projet Déméter avec le CHU de Toulouse au sein du service enfance et douleurs de l'hôpital de Purpan. D'où est parti ce projet de recherche, Olivia Troupel ?
Alors déjà d'une rencontre avec le docteur Suc qui est responsable en fait de enfants douleurs en fait à l'hôpital pour enfants. Et alors d'où est venue cette recherche ? C'est parce qu'en fait on a de plus en plus de jeunes filles qui arrivent dans les équipes de gynécologie qui sont spécialisées dans l'accueil des jeunes filles et des adolescentes, mais aussi dans les services du docteur Suc des maladies, en fait des douleurs plutôt chroniques. Et donc s'est posé cette question de comment les accueillir et comment on pouvait faire pour les aider au quotidien. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de dysménorrhées. Donc, ce sont des dysménorrhées sévères, ça veut dire des douleurs de règles qui sont très invalidantes dans la vie quotidienne. Et surtout, en fait, les médicaments n'agissent pas beaucoup sur ces douleurs-là. Et on a beaucoup de jeunes filles, du coup, qui ont tellement mal qu'elles ne peuvent pas aller à l'école, par exemple. Donc, beaucoup d'absentéisme, elles ne peuvent plus faire de sport. Donc, ce qui est vraiment très, très invalidant dans leur quotidien. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de mettre en place une recherche aussi, parce qu'il faut savoir que ces dysménorrhées sévères peuvent être en lien avec de l'endométriose et que l'endométriose à l'heure actuelle est c'est un enjeu de santé publique prioritaire au niveau du gouvernement. Et donc c'est pour ça que nous avons eu grâce au projet qu'on a déposé et grâce à la Fondation pour la recherche sur l'endométriose un financement nous permettant en fait d'essayer de comprendre comment ces jeunes filles vivent avec ces douleurs de règles qui reviennent tous les mois et qui peuvent ne pas s'arrêter tout le mois. Voilà, donc c'est très compliqué dans leur vie. Donc ce qui nous intéressait, c'était de comprendre quel était leur vécu, donc d'elles, les patientes, mais aussi de leur famille, parce que...
Ça, c'est l'objectif de cette recherche.
C'est ça, c'est tout à fait ça, pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe, et surtout quand on regarde les recherches actuelles, c'est beaucoup de recherches qui sont quantitatives, c'est-à-dire avec beaucoup de monde interrogé, mais en fait avec des auto-questionnaires, et surtout les parents ne sont pas du tout interrogés non plus, alors que c'est quand même une pathologie qui va influencer, comme on l'a vu dans nos résultats, toute la famille. Donc c'est important de prendre en considération aussi les parents, sachant qu'on a des études qui nous montrent que les parents ne perçoivent pas le vécu de l'adolescente de la même manière que l'adolescente. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir de tous les côtés, au niveau de la patiente, mais aussi de sa famille. Et on a aussi interrogé les médecins pour voir comment ils faisaient avec ces patientes qui arrivaient, parce que c'est quelque chose qui n'est pas connu. Voilà, à savoir que aussi ces patientes peuvent avoir mal au dos, mal au ventre, peuvent avoir des problèmes au niveau de la vessie. Donc c'est des problèmes qui peuvent être très très différents. Ils peuvent arriver en fait par des parcours, par des médecins très très différents.
On va y revenir justement. Vous avez donc rencontré ces jeunes filles.
Tout à fait.
Et dans quel cadre et qu'est-ce qu'il en est ressorti ?
Alors on a décidé de mettre en place un protocole en fait qui est novateur parce que, comme je disais, les patientes sont souvent interrogées par le biais de questionnaires. Et là on s'est dit on va aller les rencontrer. Alors pas en entretien individuel, mais en ce qu'on appelle en focus group, c'est-à-dire qu'on réunissait en fait les patientes en petits groupes, elles étaient à peu près 8 par focus group, et donc on leur proposait des thématiques liées bien entendu aux douleurs pour voir en fait comment elles vivaient ces douleurs, comment elles vivaient leur parcours de santé, comment ça impactait leur vie quotidienne. Et donc on a fait des focus group avec les patientes, on a fait des focus group avec les parents pour voir comment ils vivaient aussi le fait d'avoir une jeune fille, enfin leur fille, qui était pas bien, avec beaucoup de douleurs, et ils se sentaient impuissants par rapport à ça. Et on a aussi interrogé en fait des médecins au niveau de la pluridisciplinarité, puisqu'on était avec des algologues, donc des médecins qui regardent vraiment la douleur chronique. Nous avions des gynécologues, des chirurgiens, psychologue aussi pour on s'est mis autour d'une table pour voir un petit peu comment on accueille ces jeunes filles, quelles sont les problématiques, qu'est-ce qui aiderait aussi dans la prise en charge de ces jeunes filles et leurs familles.
Et dans les mots qui sont ressortis de ces focus group, quels sont ceux qui vous ont marqué? Je parle là des jeunes filles.
Alors ce qui nous a marqué déjà, c'est que les jeunes filles avaient des difficultés à mettre des mots sur ce qu'elles ressentaient.
Déjà.
Voilà. Et de se faire comprendre sur la puissance en fait de ces mots-là. Alors je vais reprendre quelques mots d'adolescentes. Il y en a une qui nous disait qu'elle avait une bombe qui explosait en fait dans le ventre et c'était comme un volcan. C'est des coups de poignard dans le ventre. Je préfère mourir que de revivre ces douleurs. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Il y avait même une ado qui nous a dit « J'ai l'impression à chaque cycle de perdre des morceaux de moi et de me décomposer. » Donc, vous voyez, ce sont des termes vraiment très, très forts voilà, pour décrire en fait ces douleurs qui ne sont pas forcément qu'au niveau du ventre. Il y en a notamment une, je pense à une, qui a des douleurs en fait énormément au niveau du dos. Et donc, du coup, on l'a pas du tout dirigé vers la gynécologie parce que c'était des douleurs au niveau du dos et rien ne fonctionnait.
Mmh.
Et en fait, bah, c'était les dysménorrhées qui donnaient en fait ces douleurs au dos, par exemple.
Et vous disiez qu'il n'y a pas de traitement spécifique pour ce type de douleur, d'où le sentiment aussi d'impuissance du milieu médical, j'imagine, non?
Alors, il n'y a pas vraiment de traitement. Alors, en fait, une des particularités de ces dysménorrhées qui sont sévères, c'est surtout qu'elles sont aussi résistantes au traitement.
Mmh.
Donc, les traitements qui peuvent exister, ça peut être... certaines prennent une pilule en continu, du coup, mais il va falloir tester la bonne pilule. Il y en a qui ont testé 2 à 3 pilules avant de trouver la bonne.
Sachant qu'on parle de jeunes filles qui ont quel âge?
Alors, nous, celles qu'on a interrogées ont à partir de 14 ans, mais on peut avoir des jeunes filles qui ont des dysménorrhées, en fait. Ça arrive, en fait, ça peut arriver soit 2 ans après les premières règles, soit pour certaines avant les premières règles, ou soit au tout début, et on a des jeunes filles qui ont leurs premières règles à partir de 9 ans.
C'est quand même extrêmement jeune.
Ce qui est très très jeune, et ce qui est compliqué aussi pour ces jeunes filles, c'est qu'elles n'y connaissent rien.
Mmh.
Voilà. Donc quand on ne connaît pas, on ne sait pas décrire, ce qui est une des particularités, c'est de se dire, est-ce que ma douleur, elle est normale ou pas normale? Voilà. Et pour les parents aussi, est-ce que c'est normal ou pas normal? Ce qui alerte vraiment les parents, c'est l'absentéisme qui est dû à ces douleurs.
Alors justement, on va y venir, parce que l'un des aspects de votre recherche, c'est aussi d'évaluer l'impact de ces douleurs sur la qualité de vie de ces jeunes filles, mais pas que, sur leur famille également. Du coup, quel est-il cet impact, Olivia Troupel?
Alors, au niveau des impacts, au niveau de la jeune fille, donc déjà beaucoup d'absentéisme scolaire. Alors donc, soit elles ne vont pas en cours, ou soit elles vont en cours, mais elles ont tellement mal qu'elles sont obligées d'aller à l'infirmerie. Soit elles sont en cours, mais elles ont du mal à se concentrer. Donc, ça a un impact sur les résultats scolaires. L'impact aussi, c'est dans la vie avec les copains, parce qu'on ne peut pas sortir de la même manière qu'un autre ado, parce qu'il faut trouver un refuge si les douleurs arrivent. Donc une vie qui est quand même impactée, sachant qu'à l'adolescence, quand même, l'essentiel, c'est la vie avec les pères.
Mmh.
Donc, ce n'est pas simple. Et aussi, il y a le fait que leurs copines, elles ne connaissent pas ces douleurs-là. Donc, les partager... Mettre des mots, c'est pas simple non plus. Au niveau de la qualité de vie, pour refaire du sport, ils peuvent pas faire n'importe quel sport non plus. Donc, il y en a qui continuent le sport malgré tout, mais ce n'est pas simple. Il y en a qui vont changer de sport pour pouvoir quand même faire du sport. On a aussi des impacts qui sont relevés au niveau de la vie familiale, c'est-à-dire des parents qui sont obligés de s'adapter dans leur travail, parce que quand il faut aller chercher leur fille à l'école, il faut pouvoir tout lâcher. Et les parents le disent, qu'ils lâchent tout pour pouvoir aller chercher leur fille. Ils disent aussi qu'ils mettent en stand-by leur vie avec les amis. Parce que quand on est invité quelque part et qu'on dit « Ah, finalement, on ne peut pas venir parce que Samantha, elle a trop mal au ventre, donc on ne va pas pouvoir venir. » Donc voilà, compliqué pour les vacances aussi, quand on organise quelque chose avec toute la fratrie, par exemple, pour aller dans un parc d'attractions. Et là, d'un coup, c'est le jour où il ne faut pas. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc ça impacte vraiment aussi, et ça c'est novateur parce que ça ne ressort pas dans les autres études, c'est-à-dire qu'il faut vraiment un parent qui s'implique énormément. Voilà. Ce qui ressort aussi dans les focus group, parce qu'on a regardé les mots qui sont les plus employés, et que ce soit du côté des patientes, du côté de leurs parents, mais aussi des professionnels, un des mots qui ressort le plus, c'est rien. Rien dans le sens, quand elles vont aux urgences, vous pouvez
c'est
y aller, il n'y a rien.
La réponse qu'il leur est donnée, c'est rien.
Voilà. Ouais. Et des médecins qui disent, j'ai tout essayé, j'ai plus rien dans ma boîte à outils, qu'est-ce que je vais faire?
Voilà. Parce que ça ne se voit pas physiquement, en fait. Enfin,
exactement.
Ouais.
C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que quand elles ont trop mal, souvent les parents, quand ils sont démunis, ils ont tout donné, ce qu'ils pouvaient, un médicament, la bouillotte, ils ont tout fait. Ils ont l'impression d'avoir tout fait. Ils vont aux urgences pour se rassurer. Et aux urgences, ils font des examens. Ils donnent des médicaments plus ou moins forts. Et finalement, on les fait ressortir en disant, il n'y a rien.
Et évidemment, Olivia Troupel, les douleurs, on le sait, ça a un impact psychologique aussi.
Exactement. ça a un impact énorme au niveau psychologique, mais aussi parce que ces douleurs fatiguent beaucoup. Mmh. Et quand on est fatigué, on a beaucoup plus de mal à accepter tout ce qui se passe autour. Donc, cet impact, il est énorme. Et même les mamans vont parler du fait qu'elles perçoivent aussi physiquement les douleurs chez leur jeune fille, avec un teint qui n'est plus tout à fait le même. Une jeune fille qui, normalement, est solaire, et là, quand elle a les douleurs, elle est vraiment refermée sur elle-même. Elle a du mal à entendre les demandes qu'on peut lui faire. Même physiquement, les mamans remarquent en fait les indices corporels et au niveau de leur morale, sachant que déjà à l'adolescence, un adolescent, il a un moral qui fluctue en fonction des hormones. Donc déjà, ce n'est pas simple à la base. Et là, ça l'est encore moins.
Et est-ce qu'il y a, chez les patientes que vous avez entendues, les jeunes patientes, un sentiment de honte ?
Et non.
Lié à l'image du cycle ? Peut-être.
Eh bien, finalement, non, parce que on a des. Moi, j'ai vu des adolescentes qui ont vraiment la tête sur les épaules et qui prennent leur mal en patience, qui ont appris en fait à gérer la douleur et à gérer elles-mêmes la douleur en fait. Et elles savent que, elles le disent comme ça, que la douleur, elle va passer. Donc elles peuvent se mettre dans leur chambre, dans le noir, en boule, et il faut que ça passe. Donc autant les premières fois, la douleur, elle est tellement horrible qu'on a peur de mourir. Voilà. Et petit à petit, en fait, elles vont s'habituer. Elles vont devenir des expertes par rapport à leur douleur, savoir comment se mettre, comment avoir tout ce qu'il faut sur elles. Et elles laissent passer. C'est le temps qui est leur meilleur allié. Donc voilà, elles ont vraiment la tête sur les épaules, même si certains médecins ne sont pas tout à fait d'accord. On entend encore parler de chochottes, par exemple, parce qu'elles ont mal pour un rien, alors que vraiment les termes qu'elles emploient pour décrire leur douleur, il y a même une patiente qui, quand elle a raconté sa douleur, parce qu'on leur faisait dessiner leur douleur, s'est mise à pleurer en racontant ces douleurs, tellement elles étaient fortes, ces douleurs-là, parce qu'il y en a qui parlent quand même comme si la peau des cuisses à l'intérieur était arrachée. Voilà, donc c'est pas anodin quand même, les douleurs, elles les décrivent bien, des coups de poignard, c'est des grosses, énormes douleurs, des pics de douleurs. Et ce qui est compliqué aussi, c'est qu'on ne sait pas quand ça va arriver. Parce que pour un cycle, ça peut durer, il y a une ado qui nous dit que pour un cycle, je peux les avoir autant deux fois par mois, qui durent 8 jours, qu'une seule fois avec du retard qui dure 5 jours. Et souvent, quand ça dure 5 jours, c'est très douloureux. Vous voyez, Rita, qui a 14 ans, nous dit ça. Elle nous dit c'est difficile à vivre parce qu'en fait, on ne peut pas avoir de repères. On ne sait pas vraiment, on ne peut pas anticiper.
On imagine combien c'est totalement épuisant quand même.
Exactement, pour la jeune fille, mais aussi pour les parents qui sont impuissants.
Vous avez terminé la première phase de ce projet de recherche. Quelle va être la suite, Olivia Troupel ?
Quelle va être la suite ? Alors, pour l'instant, on a des suites, c'est-à-dire que là, on va mettre en place, on va essayer de développer des sortes de calendriers pour aider les jeunes filles à y voir plus clair. Et développer aussi des outils qu'elles pourraient peut-être compléter, on va dire, en salle d'attente avant d'aller voir le médecin pour essayer de mettre des mots avec des repères qu'on leur donnerait pour qu'elles puissent en fait transmettre leur douleur et expliquer en fait leur douleur avec des mots. Donc voilà, il y a déjà des travaux qui sont faits qui vont être faits en fait avec les urgences, avec un protocole peut-être particulier pour accueillir ces jeunes filles, parce que le problème, c'est quand elles arrivent, elles vont aux urgences, mais lesquelles ? Urgence pour enfants, urgence adulte, urgence gynéco. On les renvoie un petit peu dans tous les endroits. Donc voilà, des protocoles pour alerter, voilà, et avoir un accueil particulier pour ces jeunes filles. Donc en fait, c'est des groupes de travail, des groupes de réflexion et surtout vraiment développer des outils pour aider au diagnostic et au suivi en fait de ces patientes. Et la dernière chose, c'est aussi travailler sur l'information qu'on peut délivrer au grand public. Alors quand je dis grand public, ça peut être donc les jeunes filles bien sûr, mais aussi leurs copains et leurs copines. Et je dis bien les copains aussi, parce que les garçons doivent connaître ces douleurs de règles.
Le corps enseignant aussi, vous
parlez des
cours de sport tout à l'heure.
Exactement, les infirmières scolaires, mais aussi tous les animateurs de sport, les coachs sportifs, parce que c'est eux qui peuvent voir si la jeune fille, elle ne peut pas jouer. Ça fait plusieurs entraînements que tu ne peux pas jouer, tu as beaucoup de douleurs. Donc c'est important aussi de les mettre dans la boucle. Donc voilà, ainsi que bien sûr les médecins généralistes, pédiatres. Voilà, donc c'est vraiment faire une information globale pour toutes ces personnes très différentes. Et d'ailleurs, c'est des jeunes filles, parce qu'à la fin, je leur posais cette question-là, mais qu'est-ce qui pourrait t'aider au quotidien ? Et elles ont dit, mais il faudrait qu'ils soient informés, que les profs sachent qu'on a le droit de sortir pour se changer, parce qu'on a mal. Parce qu'à l'heure actuelle, il y en a qui sont bloqués dans leur classe et qui ne peuvent pas sortir de la classe parce que l'enseignant ne veut pas qu'elles sortent.
Il y a une méconnaissance, voire peut-être quelques petits tabous qui restent encore.
Complètement.
Olivier Troupel, sur On Air, on aime bien terminer notre discussion par un conseil de lecture, de vidéo, de conférence sur ce qu'on vient d'évoquer. Quelle référence, en tous les cas, vous aimeriez conseiller à celles et ceux qui nous écoutent?
Moi, je dirais la BD de Clara.
La BD de Clara.
Ouais, qui est très bien faite, qui a été, enfin, je l'ai testée en fait avec des jeunes filles qui avaient une dizaine d'années déjà, et en fait c'est une femme qui a eu dysménorrhée, mais surtout de l'endométriose après, elle l'a su après, et qui raconte en fait son parcours. Et donc je trouve que c'est intéressant d'aller regarder et en plus ce sont des images, donc c'est pas difficile à lire, ça va vite, et donc voilà, ce livre il pourrait être intéressant. Il n'est pas que sur les dysménorrhées, il est aussi sur l'endométriose, mais il n'existe pas de livre sur la dysménorrhée. Juste pour mettre un petit peu plus d'informations, il y aura en fait disponible sur le site du LIST les principaux résultats de cette recherche.
Je précise, on ne l'a pas fait, que l'endométriose c'est une maladie qui fait que la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus développe des cellules en dehors de l'utérus, donc avec une inflammation, et pendant les règles, eh bien, ça peut être extrêmement douloureux. Un très grand merci Olivia Troupel pour être venue au micro de On Air, avoir accepté notre invitation.
Plaisir.
On Air est une production de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, portée par le Centre de promotion de la recherche scientifique, le service communication et le pôle production, le vidéographe de la Maison de l'image et du numérique de l'UT2J, réalisation Cédric Perronnet du pôle production, le vidéographe. On Air est diffusé sur Miroir, le web média de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, et est accessible via le site www.univ-tlse2.fr de l'université. Vous pouvez aussi retrouver On Air sur les différents comptes de l'UT2J et bien sûr sur les plateformes numériques. On Air.